Les réglages des produits Apple regorgent d'options d'accessibilité. Si vous n'en avez peut-être pas besoin, certains les utilisent au quotidien pour se mouvoir sur leur Mac ou leur iPhone. Ces options servent autant aux personnes malentendantes qu'à celles ayant des difficultés motrices, et nous allons aujourd'hui aborder le cas des personnes aveugles. Le défi est de taille, comment utiliser son téléphone ou son ordinateur sans en voir l'interface. Bien sûr, Apple n'est pas le seul acteur dans ce domaine. D'autres accessoires et technologies contribuent à améliorer la qualité de vie des personnes malvoyantes. Les nouvelles IA génératives ont permis de grandes améliorations en ce qui concerne la vision par ordinateur, étant donné qu'elles peuvent être utilisées pour décrire en détail ce qui se trouve sur une photo. De leur côté, les lunettes Meta Ray-Ban embarquent une caméra intégrée, simplifiant la démarche et permettant de se passer de smartphone. Comment utiliser l'écosystème Apple en étant aveugle? Comment progresse la technologie pour aider à surmonter le handicap? Autant de questions auxquelles nous allons répondre dans ce nouvel épisode de Kernel Panic. Pour en discuter, je suis aujourd'hui avec trois développeurs aveugles utilisant des produits Apple au quotidien. Tristan est développeur et créateur de la plateforme PrismaLab, qui propose des méthodes d'intégration de l'accessibilité dans différents projets. Bonjour Tristan.
Salut.
Je suis également avec Manuel, qui a créé l'entreprise de production sonore DPK Prod, pour laquelle il utilise principalement Logic Pro. Salut Manuel.
Salut.
Et je suis également avec Salim Ejnaini, créateur de contenu et journaliste sportif, qui a pigé pour Mac Génération il y a quelques temps. Bonjour Salim.
Bonjour, bonjour à tous.
On va commencer par un petit tour de table. Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous en dire un peu plus sur votre rapport avec aux produits Apple? Manuel, si tu veux commencer.
Alors, du coup, comme tu disais dans ton introduction, je suis créateur de ma propre société DPK Prod, dans laquelle, bien évidemment, j'utilise Logic Pro, ouais. Donc un produit de chez Apple qui est, je dirais, qui est plutôt accessible, enfin, qui est accessible, mais qui est pas commode. Mmh. Et en fait, ma micro-entreprise me permet aussi de faire des prestations de développement, et c'est là aussi où j'interviens sur ce même logiciel, ou avec un collègue qui a conçu une sorte d'interface supplémentaire sur couche qu'on va rajouter par-dessus Logic Pro, qui nous permet de rendre, pour le coup, le logiciel vraiment accessible.
D'accord.
Voilà.
Et ça fait combien de temps que tu fais ça?
Alors que je suis sur le projet de développement donc du logiciel qui s'appelle Fastboard, qui a été conçu par Luca Volpi, ça fait, je dirais, 3 ans que je suis sur le projet,
ouais.
et DPK Prod, donc ma société de production sonore, ça fait 2020, je crois, un truc comme
ça. Ok, d'accord, ouais. Et toi, Tristan?
Eh bien, moi, du coup, j'ai fini mes études dans le développement web il y a de ça quelques années maintenant, en fait, et j'ai choisi de créer une plateforme parce que qui s'oriente autour de la formation, de la sensibilisation sur l'accessibilité, je pense que parler d'accessibilité, on peut le faire, on peut faire plein de choses, mais surtout ce qui manque généralement quand on essaie de parler d'accessibilité, c'est une méthode. On voit souvent des non-sens, comme par exemple une équipe qui travaille sur la correction d'un bug dans une version 1, et puis en fait il y a la version 2 qui sort, qui casse exactement tout ce qui a été fait jusqu'à présent, parce que ceux qui étaient en charge de dev, les nouvelles fonctions n'ont pas pris en compte l'accessibilité dans leur cahier des charges, ou ce genre de trucs, comme par exemple... des développeurs qui, comme c'est pas écrit dans le cahier des charges de faire de l'accessibilité, n'en font pas, mais sauf que du coup le client ne la demande pas parce qu'il sait pas lui-même qu'il faut le faire, donc personne ne met le truc dans la boucle à un moment. Enfin,
ouais.
C'est plein de non-sens comme ça et plein de petits problèmes comme ça que j'essaye de traiter, qui m'intéressent moi, c'est autour de la méthodologie, autour de comment s'organiser quand on essaie de faire de l'accessibilité. Donc je suis en train d'essayer de créer une plateforme pour essayer de regrouper un peu tous les entrepreneurs ou les gens qui veulent se lancer dans se créer une entreprise en étant handicapé, que ce soit visuel ou autre, et voilà, essayer de s'entraider un petit peu entre nous. Quand il y en a qui a pas les compétences sur un domaine, au lieu de dire des conneries, si tu me passes l'expression, il va consulter un collègue qui sera plus compétent en la matière, ouais. S'entraider entre nous sur nos formations, enfin voilà, c'est un peu se regrouper pour être plus fort entre guillemets.
Ok, d'accord, ouais. Et est-ce que tu utilises des produits Apple ?
Oui, pardon, j'utilise... alors j'ai eu beaucoup de produits Apple, j'en suis parti un moment pour voir un petit peu ce qui se faisait d'autre, et il y a d'autres choses qui se font en termes d'accessibilité qui sont intéressantes,
ouais.
Aussi. Mais personnellement, pour l'instant, je suis plutôt sur un écosystème iOS et WatchOS. J'ai pas vraiment de Mac pour l'instant, même si ça fait partie des acquisitions que je projette pour PrismaLab, ne serait-ce que pour pouvoir répondre, parce que aujourd'hui je vois beaucoup de gens dire que tel système n'est pas accessible ou que tel truc n'est pas accessible, mais c'est des plateformes que certains n'ont pas utilisées ou pas, et je pense qu'aujourd'hui, pour vraiment travailler dans l'accessibilité quand on est non-voyant, il faudrait être un peu ce qu'on pourrait dire cross-platform,
ouais.
pour avoir un peu le meilleur de chaque. Quoi. Je sais pas ce qu'en pensent mes deux collègues, mais je pense qu'il y a du très bon partout, il y a du mauvais partout, donc il faut manger un peu à tous les râteliers, comme on dit.
Je vais pas te contredire, je suis totalement d'accord avec toi. Je pourrais même me présenter un peu comme ça, en disant que je suis Salim Elnaïi et que je suis cross-plateforme. parce que de par mon activité de streamer, de création de contenu, j'ai découvert l'univers de Twitch, moi, il y a quelques mois, ça va se compter en année très bientôt. Ouais. Notamment le milieu du gaming, on sait bien la version qu'a Apple pour le monde du gaming, ou l'inverse, ou les deux. Donc c'est un petit peu tendu. Donc si on veut vraiment forcer l'utilisation d'Apple là-dessus, on sait bien les difficultés qu'il peut y avoir sur de la VM, sur toutes ces choses-là. Moi, c'est pas tellement mon truc. J'ai préféré y aller simplement. Pour autant, je suis très utilisateur de Mac. Et depuis mes études, qui remontent à 2010 maintenant, j'avais commencé par un petit netbook, un petit PC qui m'a claqué dans les doigts assez vite, et j'ai choisi d'arrêter la casse et de me fier à ce qu'on me recommandait, c'est-à-dire d'investir dans un MacBook. Je crois que j'avais eu la dernière génération de MacBook Pro qui avait encore un lecteur CD sur le côté. J'en étais très content, ça, voilà, j'ai passé mon mémoire avec, et j'avais mis le doigt quelques années plus tôt dans l'univers iOS avec l'iPod Touch, qui pareil était un bon compromis entre le téléphone et l'écran pur tactile, parce que ça a été une étape extrêmement importante dans la téléphonie mobile pour les personnes non-voyantes. On y reviendra peut-être après, mais c'est la période où on s'est tous dit qu'on serait foutu avec la disparition des touches. On connaît bien le chiffre 5 avec le petit repère tactile dessus. Bref, voilà, toutes ces choses-là, on se disait qu'on était foutu.
J'ai même acheté un BlackBerry à cette époque.
Ouais, il y avait BlackBerry qui faisait des choses pas mal aussi. Android n'y était pas vraiment... on n'était pas dans la même course qu'aujourd'hui. Mais c'est vrai que, voilà, Apple, à partir du 3GS, on a commencé à se dire, ah ouais, il y a tout un monde, en fait, qui est accessible. Donc, moi, j'ai plongé dedans mon setup aujourd'hui. Bah, je suis sur iPad, j'ai des micros un peu branchés de partout. Juste à côté, en backup, j'ai mon MacBook Pro qui est branché. J'ai mon iPhone 16 Pro dans la poche qui sert à rien pour aujourd'hui, mais qui vous salue quand même. Et bref, voilà, je suis en plein dedans, vraiment.
Ok, ouais. J'admets que j'ai un peu de mal à comprendre comment il est possible d'utiliser un smartphone sans voir l'écran. C'est vrai que sans touche, le passage au tactile, tout ça. Je connais vaguement VoiceOver, mais j'ai jamais vraiment utilisé. Comment ça marche tout ça au quotidien ? Tristan, tu peux nous expliquer un petit peu ?
Alors, si tu veux, je vais reprendre juste un petit élément de langage avant qu'on parte tous bien du même truc, parce qu'aujourd'hui, c'est une confusion qui est encore extrêmement commune. Beaucoup de gens confondent commande vocale, dictée vocale, assistant vocal, synthèse vocale, lecture vocale, enfin c'est très... Bon, un petit point de terminologie vite fait, juste pour qu'on parle bien tous de la même chose et que ça soit plus simple. Donc, dans une technologie d'assistance, ça va se décomposer en trois points principaux. Tu vas avoir d'un côté au centre, donc le lecteur d'écran, c'est celui qui va récupérer les informations donc qui lui sont transmises, qu'il peut récupérer via le code des pages. Et par exemple, si je prends l'exemple d'une image, il va récupérer sur Internet, il va récupérer l'attribut alt de cette image pour savoir quoi dire, entre guillemets. Ça génère un texte, enfin ça génère une suite de textes qui est envoyé soit à une synthèse vocale qui, elle, va transcrire tout ça en phonème, donc en son, en voix, à base de voix robotique. Voilà, insérer une démo, enfin. Voilà, mais comme on connaît très bien. Et puis sinon, on peut aussi faire une sortie en braille, donc sur un afficheur braille que tout le monde n'a pas, parce que ça reste quand même très dispendieux, dirons-nous. Et même bien que ça reste très pratique et extrêmement intéressant, dans le cas de VoiceOver, par exemple, ce qui va se passer, c'est que ça va modifier les gestes que tu fais pour naviguer. Ouais. Au lieu de toucher directement, par exemple, quand tu vois un élément, puisque tu le cibles avec tes yeux, entre guillemets, et c'est ton doigt qui va toucher l'endroit que tu veux sur l'écran, nous, on va faire des sortes de balayages ou des gestes de raccourci, ça dépend, on peut les personnaliser un petit peu, mais voilà, c'est des gestes, grosso merdo, de balayage qu'on fait sur l'écran, ouais, qui nous permettent de défiler, en fait, et quand le pointeur arrive sur sur l'élément qui nous intéresse, on fait un double tap pour cliquer, pour valider l'action en cours.
Okay.
Et là où Apple est très fort, c'est qu'ils ont les premiers, on va dire, bien intégré une suite de gestes qui permettent de faire des actions rapides, comme par exemple mettre les pauses, raccrocher, décrocher, machin. C'est assez bien optimisé pour nous permettre une navigation fluide et rapide.
C'est-à-dire qu'ils ont intégré l'équivalent du raccourci clavier sur du toucher, sur du tactile. Ils ont tiré parti pleinement du multi-touch sur un écran pour qu'on puisse l'utiliser en toute rapidité avec la même efficacité que quelqu'un qui va pointer le doigt vers le gros bouton rouge pour accrocher ou le vert pour décrocher. Nous, on a juste à double taper avec deux doigts, peu importe où sur l'écran. Et ça n'aura pas d'incidence sur là où on touche, ça va juste activer la bonne action. Ça, c'est assez exceptionnel, en fait. Il y a cette possibilité aussi. Moi, je commence toujours à présenter la gestuelle VoiceOver en expliquant que voilà, le réflexe du non-voyant, ça va être de toucher pour savoir où il est. Mmh. Apple l'a très bien compris, et c'est le fait de toucher qui d'abord nous déclenche la lecture de l'élément qu'on a sous le doigt, que ce soit un bouton, un lien. Aujourd'hui, on a même des descriptions sommaires d'images. On peut avoir la nature de l'élément, que ce soit un bouton, une liste déroulante, une zone de texte, bref, pas mal de choses. Un onglet, un élément de liste, le nombre d'éléments total qu'on peut retrouver dans la liste. Toutes ces choses-là, juste en touchant l'élément, on a l'info. Et ensuite, à nous de savoir si on veut glisser droite-gauche pour naviguer, si on veut double-taper pour l'ouvrir, etc.
D'accord. Donc, si je comprends bien, par exemple, tu déverrouilles ton téléphone, tu as la grille d'app, tu mets ton doigt sur une app et ça va te dicter quelle app c'est. Et après, tu peux faire des gestes pour, par exemple, rentrer dans l'app ou swiper à droite, à gauche.
Tout à fait. Tout à fait. On a même dans les balayages verticaux, ça c'est un petit point de détail, mais possibilité de caler une liste d'options. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un toucher prolongé qui peut être un peu gênant pour certains en termes d'autonomie, en termes d'efficacité, vous ça pop sur l'écran, vous le voyez assez vite où est la bulle, nous faut le temps de chercher la bulle et la liste d'options. Alors, on peut avoir un défilement vertical qui là nous permet de sélectionner une liste d'options ou un mode. C'est-à-dire qu'on peut se mettre en mode édition sur la grille d'app pour faire ensuite sélectionner des glissés, des suppressions, des supprimer de l'écran d'accueil, etc.
D'accord. Et donc, c'est plus rapide que Siri, par exemple ?
Ça n'a rien à voir avec Siri.
Déjà, il y a le souci de la discrétion. Par exemple, moi, si je veux utiliser Siri, enfin, dans une réunion ou quoi, pour regarder l'heure ou même faire un petit truc vite fait sur mon écran, même dans le train ou dans Siri, c'est là justement que ça rentre dans l'autre volet des assistants et des dictées / commandes vocales, où comme le nom le dit bien, soit on dicte du texte, donc c'est moi qui dis au téléphone j'arrive à 15h et c'est lui qui écrit ça, ou la commande vocale où je lui dis allume les lumières du salon, ou là du coup je passe une commande avec un paramètre. Ouais. La synthèse vocale étant l'inverse, c'est le téléphone qui nous lit le contenu qui s'affiche à l'écran.
D'accord.
Du coup. Mais pour faire un petit point, je rebondis sur ce que tu disais, Salim, par rapport au multi-touch, parce qu'en plus, c'est carrément dans l'actualité, dans le thème, surtout avec iOS 18, là. Apple a rattrapé un retard qu'ils avaient il n'y a pas si longtemps que ça encore sur la saisie braille. Il se trouve que chez Android, chez Apple et chez Android, c'est Apple qui l'ont fait en premier, mais Android l'a fait mieux qu'eux après, puis eux ils ont rattrapé le retard ensuite. On a un beau ping-pong intéressant, mais en fait c'est ce qu'on appelle la saisie braille, parce que sinon, quand on écrit, il faut donc qu'on navigue sur le clavier pour trouver la lettre qu'on veut. Donc ça peut se faire soit en posant le doigt et en glissant le doigt jusqu'à trouver la bonne lettre, et après on relâche et c'est là que ça écrit. Donc on admettra que quand on est habitué à appuyer sur un bouton, c'est plutôt un geste qui est un peu contre-intuitif, parce qu'il y a ce côté ça écrit quand je relâche, c'est pas forcément, enfin ça peut être assez contre-intuitif quoi. Sinon on peut aussi trouver la lettre et après double taper dessus, mais ça devient alors extrêmement long.
Ouais.
Mais aujourd'hui, il faut savoir que Apple a rattrapé son retard là-dessus, c'est que ça y est, on peut avoir enfin 6 touches en même, enfin 6 touchés, 6 contacts sur l'écran en même temps. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire vraiment beaucoup, parce que ça nous permet de faire toutes les lettres braille, puisqu'il faut savoir que le braille compte 6 points. Et Apple a créé un mode où en fait on pose les doigts sur l'écran et sous nos doigts viennent s'intercaler, se poser là où on a mis nos doigts, viennent se poser les touches d'un clavier Perkins, donc un clavier braille. Et donc ça nous permet d'écrire, alors sans appareil externe, sans afficheur dispendieux, alors ça n'affiche rien, mais ça permet en tout cas d'écrire en braille, ça permet d'atteindre une fluidité qui est quand même incroyable, parce que le braille c'est vraiment notre écriture, c'est vraiment notre un patrimoine important pour nous. Et ça nous permet aussi par exemple de faire une petite recherche rapide sur l'écran, pour, par exemple si on est dans une grande liste d'éléments, qu'on veut trouver un truc, c'est vraiment très 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 bien foutu maintenant.
D'accord.
Et j'insiste sur le maintenant, surtout depuis iOS 18, parce que...
Ah ouais, iOS 18, ça va apporter une vraie... Enfin, beaucoup de changements.
iOS 18, ça va apporter... alors, on en vient à d'autres sujets, le sujet d'Apple Intelligence, notamment, qu'on va attendre un peu plus tard, mais en fait, à chaque renouvellement d'OS, ça, il faut le savoir aussi, on a... habituellement pour un utilisateur moyen le conseil de ne pas sauter sur le nouvel iOS en cas de bug classique. Dites-vous que les bugs classiques, lorsqu'on est en situation d'utiliser des modes d'accessibilité, ils peuvent être démultipliés assez rapidement. Je vais donner un exemple. Alors, on s'éloigne des iOS 18, on revient en 2017 ou 2016 je crois, où tout le monde a crié Eureka, formidable. Enfin, Apple nous a permis d'utiliser les voix de Siri sur VoiceOver. Au début, ce n'était pas le cas. Au début, c'était les premières voix de l'assistant vocal. C'était la voix de Thomas, assez connue, qui est toujours de base d'ailleurs sur pas mal de devices Apple. Eh ben voilà, on a enfin eu les utilisations des voix de Siri. Ça a tenu un an sans vrai bug. Un an après, on avait un bug des chiffres, c'est-à-dire que dès que vous utilisez un clavier numérique sur iOS avec les voix de Siri, eh bien, il y a des chiffres qui ne sont pas bien prononcés, et ça fait depuis 2017 que c'est ça, et ça n'a jamais été résolu. C'est-à-dire que 0, il vous le dit au 100, 8, il vous dit tui, 3, c'est T3, 9, c'est L1, rien à voir. Des trucs, je ne sais pas du tout d'où ça sort. Et ce bug persiste, malgré des remontées, malgré des trucs. Donc il y a parfois des choses qui sont incompréhensibles au fur et à mesure des OS, auxquelles on s'habitue, parce que clairement, il suffit de savoir que Zosan c'est zéro, et franchement fou, c'est devenu un truc, mais c'est hyper bizarre, c'est incompréhensible. Oui.
Alors je voudrais justement continuer sur la lancée, parce que en plus j'en ai parlé très très brièvement, Félix, je t'avais dit que je serais un peu critique là-dessus. Oui. Et Célim, il a lancé le sujet, donc évidemment, j'y vais les deux pieds dedans. Action. Non, mais moi, je suis extrêmement en colère par rapport à ça, parce que, effectivement, moi, je suis venu chez Apple parce que c'était fou, en fait. C'était juste dingue, c'était une révolution, on l'a dit tout à l'heure, même par rapport au téléphone mobile. Enfin, j'ai tout à fait ressenti
L'effet waouh, ouais, c'était l'effet waouh quand on est arrivé sur Apple.
Moi je sortais d'un très très beau téléphone que j'adorais, c'était un Nokia E66 que j'adorais vraiment.
Moi aussi.
Et j'étais vraiment fan de ce téléphone, et puis ça c'était 2010 je crois, je sais plus de quelle manière j'y suis venu, mais je suis allé en boutique et puis on m'a dit oui, il y a l'iPhone, il paraît qu'il parle. Je veux tester, tester. On me l'a mis entre les mains, je suis reparti avec. Donc, vraiment, Apple a fait quelque chose d'extraordinaire. Et comme tu disais, donc depuis 2017, il y a eu les super voix donc de Siri qu'on a pu utiliser. Il y a eu cette dégénérescence, j'ai envie de dire, des chiffres qui, selon moi, n'est pas si grave, parce qu'à l'époque, on pouvait changer de voix. On pouvait réutiliser Thomas, on pouvait... Et aujourd'hui, en fait, c'est juste pas possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'en suis réduit, parce que bon, quand je fais du code, je peux pas me permettre d'avoir une voix qui me raconte des inepties. Donc, je suis obligé, parce que c'est la voix la plus stable pour l'instant, d'utiliser une voix de Thomas compacte. Donc, je suis même pas sur une voix de qualité, je suis sur une voix de Thomas compacte, donc un truc qui est très réactif, un truc qui parle à peu près correctement. Ouais. Et il y a encore des énormités au niveau des prononciations. Alors, je sais que on m'a parlé de moteur de synthèse qui était pas à jour, enfin qui était celui des Américains, parce que du coup, mais moi mon nom il dit Menu. Moi j'ai le droit à Menu.
Oui. Tu vois, tu parles des mots, mais je me suis habitué à ce truc. Mais quand tu dis, quand tu écris, ça m'énerve. Ouais, il va te lire avec la voix de Siri masculine ou féminine. Il te dit ça me. Ça me. Non mais vraiment, vous avez fait le test, je sais pas si vous pouvez le faire, mais c'est un truc, il y a aucune espèce de logique et de prise en compte depuis toutes ces années, là je te rejoins.
Et ça va de pire en, ça va de pire, en pire, parce que l'année dernière, ou même l'année d'avant, c'était genre identifiant, c'était identify. tu te dis, bon d'accord, ça vient du moteur de synthèse américain, ils ont pas fait ce qu'il fallait, bon admettons. Après, moi, je suis tombé sur document Polaroid.
Ok.
Non, mais document Polaroid. Donc, et ça, c'était document.
Voilà. Ok.
Docu Polaroid, ou je sais plus ce qu'il dit. CV, on a le droit à cheval vapeur maintenant.
Oui, parce que...
Ça, c'est cohérent plus ou moins, parce qu'il y a l'acronyme, mais. Il y a plein de trucs comme ça.
Pour GP, quand tu veux parler de Grand Prix, il te dit Guadeloupe. Ouais.
Oui, ah oui, Guadeloupe. Okay. C'est super. En fait, ça cause mal.
Ben, s'il faut le résumer, l'histoire d'Apple avec l'accessibilité, elle est arrivée. Ils sont arrivés comme des messies, véritablement. C'est-à-dire qu'ils ont révolutionné le monde du smartphone, comme ils ont révolutionné le monde de l'accessibilité à tous du smartphone. Petite parenthèse, à chaque fois on me dit Apple c'est trop cher, je dis oui, mais au moins ils entubent tout le monde. Et ils ont à cœur d'entuber tout le monde de la même manière. Voilà, c'est petite blague, mais voilà, au moins on sait pourquoi on paye et c'est quelque chose où on est équitable. Et ça me plaît dans la politique. À la base, un téléphone, avant Apple, il fallait acheter un téléphone compatible, l'envoyer en payant une somme d'argent, pas avoir de téléphone pendant 2 semaines, et qu'il nous revienne avec un système de vocalisation qui ne permettait que d'en utiliser 30% à peu près. Tout ce qui était mail, tout ça... inutilisable. Aujourd'hui, c'est utilisable out of the box, formidable, génial, c'est-à-dire qu'ils ont mis le pied dedans à fond. On s'en souvient peut-être pas, mais à l'époque, jusqu'en 2012 ou 13, je ne sais plus, l'Apple Store, le magasin Apple Store vendait en ligne des plages braille. Il y avait des références de la marque Humanware, il y avait des plages braille vendues chez Apple directement. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment voulu mettre le pied là-dedans. Ils ont vite arrêté en comprenant ce que c'était comme marché de niche, mais ils le faisaient à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, on a un peu le sentiment qu'ils se sont reposés sur leur laurier, sur tous les succès qu'ils ont eus. C'est-à-dire qu'ils comprennent aussi la difficulté que peut être l'accessibilité quand on veut la faire parfaitement. Alors là-dessus, les Américains sont au top du top du top du top. Mais en Europe, on commence à entrevoir un côté un peu tiers-monde de l'accessibilité à certaines fonctions et de la prise en compte de certains bugs. Et ça, c'est dommage. C'est assez dommage.
Bah oui, parce que la retranscription vocale, quand même, c'est pour nous qui sommes déficients visuels, c'est quand même la base, en fait. Donc, à partir de ce moment-là où ça déconne à ce niveau-là... C'est pas, alors, j'irai pas, moi, me dire que je retournerai chez Microsoft ou Android. Ouais. Je suis pas là non plus, hein. Mais franchement, c'est épuisant, hein. Vraiment. C'est fatigant,
Est-ce que vous utilisez beaucoup la dictée vocale au quotidien?
La dictée vocale dans l'esprit de beaucoup de gens. Et ça, je crois que c'est important que les auditeurs de Mac Génération l'entendent, mais ce n'est pas une recette miracle. Il faut faire très attention et ça peut causer du tort aux personnes non-voyantes et malvoyantes et aux personnes qui l'utilisent, aux ados, aux jeunes, à n'importe qui va vouloir l'utiliser par facilité. Il faut faire très attention parce que des erreurs se glissent dedans. Oui. Au final, il n'est pas nécessairement visible par votre destinataire que vous avez utilisé une dictée vocale ou Siri, hormis parfois sur les messages, et heureusement qu'il y a cette petite pastille, mais vous pouvez écrire des inepties, des énormités, ou vous faire passer pour... ça peut être hyper important, l'orthographe, c'est une vraie carte de visite. Il faut toujours ne pas se passer de la relecture, je pense.
Et puis surtout pour les non-voyants, en fait moi c'est pour ça que maintenant personnellement, alors je sais que même j'écris souvent avec des fautes, mais ça tient plus de la dysorthographie qu'autre chose, donc bon, à force je m'y suis fait, mais je préfère mes fautes à moi et écrire moi-même avec la saisie braille plutôt que des trucs comme par exemple, je me souviens moi, le Pâques où j'ai écrit « Allez, joyeuse Pâques à tous et attention à l'indigestion
». Ah oui.
Vous voyez le truc, l'indigestion.
Okay, ouais.
Voilà. Et sauf que ça, quand tu le relis d'un bloc à la synthèse vocale, ça s'entend pas du tout. Enfin, presque pas. Okay, quoi. Ouais. Si tu le relis un peu trop vite, si, ça c'est bon. Et c'est pour ça que moi, maintenant je dis que, en fait, si tu mets comparativement le temps que tu mets à écrire, à la dictée vocale, les éventuels petits bugs de réseau, donc les petits temps de chargement quand même, parce que ça reste toujours un petit peu à ce moment-là, le temps de relire tout mot par mot, voire caractère par caractère, hein, pour être bien sûr, en fait, sors la saisie braille, écris tout d'un bloc et basta, hein, parce que j'ai pas mal cheminé entre différents terminaux sous Android, sur, j'en ai eu un encore très mauvais sur Android qui était un truc chinois, parce que je voulais absolument qu'il ait un clavier, parce que j'étais assez réfractaire à la saisie braille, donc je voulais absolument qu'il ait un clavier, puis j'avais peur de pas être confortable sur un truc tactile. Parce qu'il y a ça aussi, hein, c'est que quand on est non-voyant, à la différence d'Apple, où on peut aller en magasin et dire « Au fait, comment que c'est-il avec l'iPhone ?» et on vous le file entre les mains, on vous file des cours, on vous forme, on machin. Bah, sur Android, quand on arrive, c'est accessibilité. La quoi, pardon ? L'accessi quoi ? C'est... J'ai même eu des gens de Samsung qui m'ont dit « Ah non, c'est pas fait, c'est pas accessible notre truc, machin. » Complètement faux. Complètement faux. C'est le mec me déconseille d'acheter un produit alors qu'en fait...
Alors qu'on peut l'utiliser.
Et ça en est où d'ailleurs à ce niveau-là maintenant ? Enfin, en 2024, Android, Windows, tout ça, ça tient à peu près la tête à Apple ou...
Moi, pour être très honnête, il n'y a pas longtemps, j'ai voulu avoir une réponse notamment sur l'ergonomie des téléphones pliants, des nouveaux formats de téléphones pliants, notamment à force de lire sur e-génération, des espoirs de voir des tablettes et des téléphones et des iPhones pliants, dont je fais partie, hein, s'il y a un vote, voilà, vous avez ma voix. Ben, j'ai acheté un Z Flip, notamment pour le tester, avec la liberté de le renvoyer s'il ne m'allait pas. Honnêtement, je l'ai gardé. Je l'ai en second téléphone, en téléphone pro aujourd'hui. Ça marche plutôt pas mal. J'ai été assez bluffé. J'avais été très déçu dans les mêmes eaux que Tristan décrit dans les années un peu après 2015-2016 où j'avais eu un téléphone d'entrée de gamme. En fait, il faut savoir un truc, c'est sur Samsung comme sur Apple, on va avoir des grosses demandes en termes de spec technique. C'est-à-dire que dès lors qu'on va faire appel à VoiceOver, on demande beaucoup plus à la machine, c'est une vérité. Les ralentissements, on fait partie des premiers à les observer, et ils se voient.
Ouais, nos téléphones vieillissent très mal.
Voilà, ils se voient assez vite. Donc les téléphones d'entrée de gamme, moi je crois que c'était un Oppo que j'avais eu à l'époque, j'en avais été hyper déçu parce que c'était un entrée de gamme, quoi. C'était très lent, il fallait attendre. T'avais plus vite fait de poster ton courrier que d'envoyer un texte. Là aujourd'hui, avec les Snapdragon dernière génération, tout ça, franchement, c'est top. La seule limite qu'on voit, c'est dans l'ergonomie, où on sent bien l'avance que conserve Apple dessus. Je passerai pas tout mon environnement dessus sur du Android / Windows. Néanmoins, étant sur Windows pour tout ce qui est streaming, pour tout ce qui est Twitch, etc., création de contenu pour certaines choses qui sont encore un peu sans solution en termes d'accessibilité, ça fait une bonne passerelle, malgré tout, entre les deux.
J'avais une question par rapport à la manière dont vous utilisez votre matériel. Est-ce que vous utilisez des applications optimisées pour les personnes malvoyantes ? Je me souviens par exemple d'un jeu qui s'appelait Blind Legend, où en gros il n'y avait pas d'interface graphique et tout passait, enfin tout est optimisé pour les personnes malvoyantes. Est-ce que ça c'est un peu une exception ou est-ce qu'il y a d'autres applications comme ça qui proposent des interfaces optimisées ?
Alors Blind Legend, si tu veux, c'était un projet qui avait été lancé, si je ne dis pas de bêtises, c'était Radio France, je crois, qui avait participé. Enfin, il y avait eu un vrai boulot fait sur l'ambiance. On appelle ça jeu vidéo, pourtant il n'y a pas d'écran. C'est un jeu audio immersif. Ça serait l'équivalent de la réalité virtuelle quand on est aveugle. C'est vraiment de l'audio 3D, etc. C'est pas mal. C'est pas mal, mais en fait, alors il y en a des jeux, il existe quelques jeux comme ça, mais on tourne assez vite en rond, c'est-à-dire que le postulat de base est très souvent qu'on est aveugle et qu'on vit des super aventures. Là, c'est Blake qui est un chevalier aveugle, machin, et qui combat des monstres et tout ça, qui va chercher son épouse qui a été enlevée, qui se fait guider par sa fille, tout ça. C'est formidable, c'est génial, mais à un moment donné, bon, bah, on est un peu comme tout le monde. Quand tu cherches à t'évader dans l'imaginaire, tu cherches à t'évader de tout ce que tu es, y compris de cette condition de ces cités. Donc pour le jeu vidéo aujourd'hui, on a malheureusement un vrai retard chez Apple qui n'ouvre pas encore, qui n'a pas encore ouvert, il n'y a pas de précédent, ces jeux vidéo, grand public, enfin on n'a pas de jeux qui soient accessibles sur Apple, on n'a pas de jeux vidéo grand public, voilà. Ce qui n'est pas le cas sur PC, on en a, sur PS5 on en a, voilà. Après, des applis optimisées, il en existe, il y a Be My Eyes qui est une application à la base, on est parti du postulat de FaceTime en réalité, parce que le premier réflexe qu'on pouvait avoir quand on était seul à un moment donné et qu'on avait besoin d'un coup de main visuel, eh ben un coup de FaceTime et paf, t'as un proche qui a les yeux sur ton smartphone et qui peut lire depuis ton réticule de caméra ce que tu lui pointes. Donc ça, c'est formidable. Be My Eyes permet ça, de te mettre en relation avec des bénévoles qui te lisent ça. Aujourd'hui, il y a même une IA qui est intégrée avec Be My AI et qu'ils ont intégré dedans.
Ouais,
et
qui,
et c'est incroyable. Une description de photo que tu peux importer, etc. C'est fou, quoi.
Et
c'est
donc ça fonctionne comment ? On avait écrit un article là-dessus sur MacG, mais donc si je comprends bien, en gros, c'est que vous prenez une photo et ça te donne une description exacte de ce qu'il y a dessus.
Oui, d'ailleurs, il y a une nouveauté qui risque de pas tarder à arriver parce que moi, je la vois sur des applications qui sont pas faites pour nous, pas spécifiquement, mais qui sont plus pour le fun. Parce que en fait, ce qui se passe souvent, c'est les valides font ah tiens, c'est amusant comme truc, puis nous on fait ah ouais, mais en fait, pour nous, c'est vraiment utile. mais il y a Pixibot en ce moment, Pixbot, là je mange toujours le mot, qui permet même de décrire des vidéos.
D'accord.
Ah, ça, j'ai hâte que ça arrive, ça vraiment.
Ouais, pareil.
Et ben, il y arrive. Il hallucine encore. On est un peu au début, comme à l'époque, là, quand il a versé la gauche et la droite. Il était un peu tout bourré. Les gens avaient 3-4 mains, des fois, c'était pas très grave. Bon, Pixbot, là, pour le coup, quand je fais des vidéos, souvent, il voit des gens qui sont pas là. Alors, l'autre jour, il m'a décrit que c'était une vidéo dans mon salon. Il m'a décrit mon canapé. Il m'a dit qu'il y avait une femme assise dessus, alors que, franchement, je suis pas sûr. Et il m'a dit qu'il y avait un mec barbu à ma table, où je mange d'habitude. Qui est en train d'utiliser son portable, je suis vraiment pas convaincu, ou alors c'est un peu flippant.
Oui. ceci dit, pour Be My Eyes, juste très rapidement, pas m'éterniser dessus, mais je pense que c'était important que les gens qui nous écoutent se rendent compte véritablement de la puissance de ce truc-là. Moi, je fais du modélisme ferroviaire, donc au 1/160, donc c'est petit. Ça fait, pour un ordre d'idée, une locomotive taille, en 1/160, ça fait 6 à 8 cm.
Ouais.
Et en fait, donc, j'utilise une centrale numérique qui permet donc de piloter ces trains. Et quand j'ai reçu la centrale numérique, il y avait une télécommande avec. Et ma femme n'était pas là. Et je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de tester cette interface d'intelligence artificielle. J'ai pris en photo donc la télécommande. En une seule photo, l'IA m'a décrit ma télécommande, mais
ouais,
d'une manière tellement précise. Et alors après, pour configurer, il y avait 2-3 trucs à configurer. Je lui ai dit, focalise-toi sur... Parce qu'il y a un petit écran sur la télécommande. Je lui ai dit, focalise-toi sur l'écran. Et à chaque fois que je prenais une photo... L'IA me disait, voilà, il y a tel sigle en haut à gauche, il y a tel truc qui est allumé, il y a le chiffre 3 qui est en clignotant. Je lui dis, mais waouh, en fait, mais waouh. Truc de fou.
Et c'est même pire que ça, c'est qu'en plus, si tu connais le modèle de ta télécommande, tu peux carrément lui dire dis-moi, qu'est-ce que tu sais sur les...
Il a reconnu, c'est ça. Il a reconnu la télécommande, il m'a dit, ouais, voilà, c'est une télécommande de type machin, Z21, hein, de telle marque,
ouais,
et tout. Un truc de fou. J'étais vraiment...
Tu peux lui demander de te faire la notice en direct et de te confirmer comment ça réagit. Moi, je sais, je l'utilisais aussi pour régler ma chaudière. Parce que
c'est du GPT-4, en fait. C'est du GPT-4. Ouais, donc, on a vraiment un vrai moteur qui est intégré dedans. On peut lancer la conversation avec, en restant sur la même photo, en rajoutant d'autres photos dessus.
Il peut même tenir compte du cumul des photos aussi, d'ailleurs.
C'est ça. Et si tu lui rajoutes une précision, il en tient compte pour réinterpréter. Enfin, c'est un vrai game changer en bon français, mais pour de vrai, c'est ça. Pour le coup, vraiment, on a un vrai changement là-dessus. Un tableau, une carte de restaurant, c'est l'exemple favori de beaucoup de gens, mais pour le coup, ça marche bien, ça marche super bien. Il y a des vrais trucs de fou là-dessus. Je vais revenir sur un point que tu disais, Félix, en introduction, pardon, c'est maintenant l'étape d'après. Qu'est-ce que ça serait? Mais un truc comme ça, une IA comme ça dans un objet du quotidien comme une paire de lunettes,
ouais.
C'est un peu tout ce qui nous manque. Et là, pour le coup, pardon, mais je suis pas très très copain avec le DMA. Moi, j'ai hâte qu'on puisse enfin, en Europe, aussi bénéficier de ce genre d'IA que proposent les Ray-Ban Meta que j'utilise au quotidien aujourd'hui. Alors, je triche un peu, parce qu'avec un VPN, tu actives le VPN, tu te mets aux US, paf, tu redésactives, et il te dit miraculeusement que la fonction IA de Meta est disponible dans ta région. Voilà, c'est un peu de la triche, ça marche qu'en anglais, moi je m'en fous, je suis anglophone, mais c'est pas le cas de tout le monde. Ça, je suis certain que ça changera les choses aussi, parce qu'à la volée, tes lunettes voient ce que tu vois, enfin, ouais. Voient ce que, vers quoi tu te diriges. Donc, dans l'idée, tu as un vrai assistant. Pour les fans de Marvel, c'est l'équivalent du geek dans le fauteuil, hein, c'est un peu ça. T'as vraiment une intelligence artificielle à ton service, tout le temps. Et ça, c'est un truc qui peut être incroyable. Quand on sera dans l'interprétation à la volée en direct, type vidéo ou type vraiment conversationnel avec la capacité de savoir s'il y a un mouvement, s'il y a des choses qui changent ou quoi. Mais là, ce sera mais génial, quoi.
Bah, moi, je vois un exemple comme ça. C'est aussi un élément qui est très difficile en termes d'accessibilité pour nous dans l'autonomie de tous les jours. C'est, on appelle ça souvent les derniers mètres. Avec les gros guillemets, c'est les fameux derniers mètres, c'est un peu le...
Ouais, quand on est guidé au GPS.
Voilà, alors t'arrives au GPS dans une zone, le GPS te dit « Ouais, c'est bon, tu y es ». Et en fait, bon, tu y es presque, mais qu'est-ce que, laquelle ? Parce qu'il y a 3-4 portes, il y en a une, c'est la pharmacie, l'autre, c'est la boucherie, et puis l'autre, c'est la gare. Si tu rentres dans l'une en disant...
Tu rentres à la boucherie et t'attends le train, ça passe pas, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Mais donc tu vois, et en fait c'est là qu'une IA comme Be My Eyes aussi, c'est forcément c'est incroyable, parce que moi quand je suis allé l'iPhone que j'avais acheté, c'était un truc d'occasion, et puis assez rapidement il s'est apparu qu'il était un petit peu endommagé, il y avait des petits soucis machin, donc je suis allé le changer, j'ai pris un 15 à l'Apple Store, bon, pour l'instant j'ai toujours le 15 là, en discutant avec le vendeur, parce que moi après avoir configuré mon 15 qui était tout neuf et tout, je dis ouais bon bah, vas-y, moi je suis debout depuis 7h du mat, j'ai fait je sais pas combien de bornes en train pour venir jusqu'à l'Apple Store, j'ai peut-être allé me choper un petit truc à manger et tout ça, maintenant qu'on a bien galéré, on a galéré à transférer l'ici mais à faire tout le enfin voilà, je vais me choper un petit truc à manger je pense et tout, puis le vendeur me dit ouais bah si tu montes au dernier étage du centre commercial, là il y a tous les restos. Je dis, ok bon, j'arrive en haut, je dégaine mon nouvel iPhone tout neuf là, et je prends des photos en tournant autour de moi, en tournant sur moi-même, et il me dit oui alors là en face de vous il y a un restaurant avec une devanture plutôt tropicale avec un décor je sais pas quoi nanana, il est actuellement fermé. Ok bon bah je me retourne dans l'autre sens, je prends une autre photo, bah là il y a un vendeur de sandwich machin dans un petit stand, il est ouvert et il y a des clients qui sont en train de manger sur les tables. Ok bon on y va, go. Et en combinant ça et à la fin tu croises quelqu'un et tu dis ouais tiens, le vendeur il est où, on te file un petit coup de main, et ben c'est un truc que nos des gens, moi je connais des non-voyants, j'ai aidé des personnes plus âgées non-voyantes qui ont 70, 75 ans aujourd'hui, ils pouvaient même pas rêver d'un truc pareil à l'époque, et encore une fois ça se fait dans le marché grand public,
ouais.
J'ai pas tu parlais de tes Ray-Ban Salim tout à l'heure, le précédent en termes de lunettes de soleil qui font de l'OCR et de la lecture de texte, c'était un truc spécialisé qui valait 3 500-4 000 balles
et qui était énorme, qui avait une gueule, t'as pas envie de le porter, t'as pas envie de l'avoir, et c'est hyper important aussi mine de rien, socialement pardon, mais t'as un truc où ça se voit que c'est spécialisé, qu'il y a une gueule pas finie, on dirait un prototype ou quoi, et quand tu enfiles des Ray-Ban, t'as un iPhone dans la main, ou bah, socialement, ça dit un peu plus, ça donne un peu plus le contrôle à l'utilisateur,
ouais.
De ce qu'il veut qu'on sache de lui, de ce qu'il veut montrer de lui. T'as une identité dans le téléphone aussi, mine de rien.
Oui,
il y a
ouais.
des choses comme ça. Une autre fonctionnalité, pour revenir sur ta question, Félix, des applications spécialisées, il y en a une qui était avant l'intelligence artificielle de Be My Eyes, qui s'appelle Seeing AI. Alors, faut pas la confondre. C'est basé sur l'intelligence artificielle. C'est Microsoft qui avait lancé ça. Et qui, c'est un couteau suisse. C'est vraiment le couteau suisse de l'aveugle. Tu as la détection des couleurs là-dessus, détection de luminosité à travers le téléphone, l'appareil photo, la lecture manuscrite, des trucs à la volée, bref, des trucs de fou. Et notamment une fonction assez peu connue qui utilise le lidar, comme détecteur d'obstacles et détecteur de distance. C'est-à-dire que la vibration est modifiée en fonction de la distance à laquelle tu te trouves d'un objet. Donc ça fait vraiment, tu vois, ça remplit vraiment le rôle de lidar et ça donne l'info brute à l'utilisateur. C'est un truc incroyable. Ça te permet vraiment de mettre la techno au service du déplacement et c'est vraiment, on te donne la donnée brute faisant ce que toi tu sais en faire en fonction de ton autonomie. Et ça, je trouve ça vraiment génial. C'est une philosophie qui est... je suis même étonné qu'elle soit pas reprise dans l'appli Loop, parce qu'elle mériterait vraiment d'avoir sa place nativement sur le téléphone. Voilà.
Oh, c'est malin comme idée, ouais. Ben, je voulais vous poser la question des services, justement, parce que Salim, tu avais écrit un chouette article sur Apple TV+, il y a quelques années. Apple, ils en sont où au niveau de l'accessibilité, par exemple, pour musique, arcade, fitness plus, tout ça?
Ce que je peux répondre pour revenir déjà sur cet article, merci pour le compliment au passage, mais il est toujours d'actualité, hormis le petit coucou qu'on fait à Salto qui ont fermé depuis, que je qualifie un petit peu de catastrophe à la française, et malheureusement c'était le cas, puisque l'application en elle-même n'était pas accessible, on pouvait pas l'utiliser, donc comme ça c'est réglé. Apple a instauré une règle qui m'a, moi, décoiffé, et pour laquelle j'ai eu un respect immense pour Apple. Ils ont fait ce que tout le monde devrait faire. Ils ont rendu l'audio description accessible dans tous les pays, dans toutes les langues. C'est-à-dire que toutes les langues qu'ils ont choisi de doubler, on a l'audio description correspondante. En France, je peux accéder à l'italien audio décrit, à l'espagnol audio décrit, à l'anglais audio décrit, au français audio décrit et d'autres que je n'aurais pas cités ici. C'est absolument pas le cas chez les pendants Netflix, Amazon ou Disney+. Ils commencent à s'y lancer, mais pour donner un exemple, Disney+, leurs contenus originaux, les séries ou films, alors moi je suis très Marvel, qui sont sortis à ce moment-là, ne sont pas audio décrits en français. Les séries, les Agatha Harkness, tout ça, sont pas dispo en audio description français. Il faut passer en anglais en VO et avoir l'audio description. Les films Avengers qui sont décrits, dont les bandes son existent en audio description au cinéma, ne sont pas transmises sur le service de VOD. C'est inimaginable, quoi. Un mastodonte comme Disney n'a pas fait ce travail de traçabilité de la bande. Donc ça, c'est un petit peu Fitness Plus. Pour être très honnête, j'ai voulu le tester au début. Moi, j'ai pas tellement trouvé mon compte parce que par ailleurs, je suis très sportif sur d'autres domaines et j'ai des séances d'entraînement, voilà, je serais pas forcément très client de Fitness Plus, donc je ne saurais pas dire si vraiment ça fonctionne. Arcade, on se heurte à la difficulté des jeux qui soient accessibles. On en a quelques-uns, mais Arcade, pareil, mis à part les classements partagés, etc., qui sont un peu rigolos, mais je vais pas avoir tellement d'intérêt à utiliser un Apple Arcade. En revanche, Apple Music, oui. Apple Music, ça fonctionne. Moi, j'ai aucun problème avec. Bien au contraire, c'est hyper bien intégré. Et ça serait malheureux que ça soit autrement d'ailleurs. Mais dans l'écosystème, ça fonctionne vraiment très bien. Et c'est vraiment, on sent que c'est le but. Moi, je suis abonné à Apple Music. On sent bien qu'il y a plus de difficultés pour ceux qui ne le sont pas d'ailleurs à consulter leur propre bibliothèque musicale. Aujourd'hui, ça se veut vraiment incontournable.
Moi, je rebondis juste par rapport à Apple TV. Quand j'ai acheté l'iPhone 15, j'ai eu un essai d'Apple TV. Alors c'est vrai que pour l'instant j'ai plus trop de services de streaming parce que faute de temps, j'ai pas tellement le temps de me poser devant une série et j'en regarde pas tellement. Mais ce qui m'a vraiment bluffé, je dois dire, c'était le fait que quand je naviguais dans le catalogue, je trouvais tout ce qui était Apple Original et consorts. Audio décrit avec une voix humaine française de qualité, une vraie description.
Alors, Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que effectivement, on le voit de plus en plus sur Netflix. Le marché de l'audio description commence à. Alors, il y a le choix qui est fait entre la qualité et la quantité. Est-ce que tu veux du fast-food ou est-ce que tu veux un gastronomique? Il y a de plus en plus de séries qui sont audio décrites par des voix de synthèse. Quasiment par un procédé IA où en fait c'est des voix type Siri à l'ancienne ou type vraiment pas très propre qui vont vous décrire
avec erreur de traduction
qui vont décrire l'action avec parfois des belles erreurs qui se glissent dedans. Il y a un débat, je suis pas forcément pour. Maintenant, ça, si ça permet de faire en sorte que ces titres soient dispo, bon, moi, idéologiquement, je suis pas pour, parce que les professionnels de description font un boulot formidable et que pour moi, ça s'intègre dans le travail artistique en réalité, de la même manière que les comédiens de doublage, pour nous, sont les héros de ces fictions. Pour moi, les professionnels d'audio description ont toute leur place dans la fiction qu'ils viennent d'écrire.
Donc bon. Surtout qu'il y a un travail d'intégration, c'est très complexe d'intégrer une bonne audiodescription syntaxique et synthétique et rapide et efficace et qui dise ce qu'il faut pile au moment où il faut. Moi j'ai l'exemple des gens qui arrivent à parler, à caser des petites phrases, des demi-phrases, des trucs, mais qui te donnent un contexte et tu fais ah ouais quand même, et tu ressors en ayant vachement bien assimilé l'info et tu te sens plus confortable. C'est pas indispensable, on regarde énormément, et d'ailleurs heureusement, sinon on regarderait pas grand chose, mais on regarde énormément de contenu, pas audio décrit. Mais par exemple, moi, à l'inverse, je trouve parfois qu'une mauvaise audio description, en fait, c'est même pire. Parce que...
Pour revenir sur la question d'Apple TV+, et tout ça, c'est qu'effectivement, leurs contenus originaux, en fait, ils ont choisi de standardiser les audio descriptions et de les standardiser vers le haut en termes de qualité. Ouais. C'est-à-dire qu'ils le font vraiment, on retrouve la patte américaine qui est très très bonne. Les législations américaines sont excellentes en la matière et on voit bien le nombre de contenus qu'ils ont par rapport au nôtre, en natif, c'est assez extraordinaire. Là, ils ont fait ce choix de dire on le sort dispo pour tout le monde de la même manière. Et ça, c'est une philosophie que je trouve extraordinaire et dans laquelle devraient s'inspirer les autres distributeurs, les autres plateformes VOD.
Par contre, je me prends juste un petit crochet sur vite fait pour juste un truc par rapport à WatchOS qui permet d'ajuster le volume de la watch en fonction du bruit ambiant. Ça peut paraître un détail, mais nous, pour ajuster le volume du coup de voiceover, il faut qu'on fasse un geste avec le rotor. Ouais. Donc il faut qu'on tourne les doigts sur l'écran jusqu'à entendre la synthèse vocale.
Il y a plein de choses. Il y a une fonction aussi où quand tu as montré verrouillé, tu tapotes deux fois l'écran verrouillé.
Pour l'avoir un vibreur.
Et l'heure va être donnée par des vibrations. Donc en fait, tu peux consulter l'heure de façon hyper discrète et voire élégante et sans avoir la voix qui te chuchote une caricature de 18h22. Machin. Oui, on n'est plus là-dedans aujourd'hui. Ça n'existe plus. En fait, et ça donne aussi pour moi une image, et il y a un vrai rôle sociétal en fait à ce que fait Apple dans les adaptations. Il n'y a pas un produit aujourd'hui qui soit au catalogue d'un Apple Store ou en tout cas créé par Apple qui ne soit pas utilisable par nous. Et ça aujourd'hui, c'est formidable, c'est extraordinaire. C'était pas le cas il y a de ça une quinzaine, une vingtaine d'années. Les produits aujourd'hui, on se pose plus la question de si on peut l'utiliser. La question qui est sortie pour le Vision Pro, c'est comment ça se passe pour l'utiliser. Et ça, pour moi, c'est on est déjà sur une étape qui est significative.
Ok, merci pour vos témoignages, c'était super. Pour nos auditeurs qui souhaitent approfondir le sujet, je laisserai dans la description les différents articles sur le sujet. Salim, merci d'être venu, à bientôt.
Merci beaucoup Félix, à très bientôt, et je glisse un petit remerciement à iGénération pour la qualité de vos articles qui sont toujours hyper intéressants, y compris sur les points de vue d'accessibilité. Vous y avez, vous leur laissez une grande place et je trouve ça hyper intéressant. Voilà, c'est formidable de l'intégrer au même titre que tous les autres sujets.
Merci, ça fait plaisir. Tristan, la prochaine ?
Eh ben, ouais, les prochaines. Et puis, je me joins à Salim en espérant que, justement, d'autres médias pourront suivre le mouvement. Parce que plus on en parlera, c'est comme la sécurité. La sécurité, avant, personne n'en parlait. C'était un topic qui concernait que les geeks dans le noir qui vivaient entourés de leurs écrans et qui sortaient jamais de chez eux et qui étaient un peu des magiciens. Un peu mystique, et puis petit à petit on s'est mis à en parler parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait ça concernait tout le monde, que voilà. Et alors l'accessibilité, ouais, c'est exactement la même chose, parce que demain on va vieillir, demain on va avoir des accidents, demain on pourrait tous se retrouver de l'autre côté de la barrière, et il faut absolument que ça se banalise et que de plus en plus de gens en parlent comme un sujet à part entière. Donc ouais, gros bravo à Egénération pour ça, et j'espère que d'autres embarqueront dans le train et que ça continuera toujours plus à se banaliser.
Merci. Manu, à la prochaine. Merci d'être passé.
Eh ben merci pour l'invitation. Puis je crois que les collègues ont tout dit. Hein, j'ai rien à rajouter, si ce n'est que si la firme française de chez Apple pouvait faire un petit effort pour nos voix, nos chères oreilles, ce serait bien ça pouvait arrêter de nous faire saigner les oreilles. Ça, ouais.
Eh ben à bientôt alors. Et nous on se retrouvera prochainement pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.